Eh bien, les résistants, ils faisaient des sabotages pour dans les voies ferrées et les installations industrielles. Ils ont créé un réseau afin de diffuser la presse clandestine.
Secteur G, avant février 1944, l'organisation clandestine de la vallée du Gier est sous l'autorité des MUR, c'est Mouvement Uni de la Résistance. Ensuite, le commandant Marais place l'organisation résistante sous la responsabilité du capitaine Édouard Brodin.
Mercredi 20 mai, c'est dans les salons de la préfecture de la Loire que le prix Violette Maurice a récompensé les travaux d'écoliers et de lycéens de l'agglomération stéphanoise. La section LICRA de ce secteur proposait en 2026 aux élèves de travailler sur Simone Veil et plus particulièrement autour de sa phrase « Je n'aime pas l'expression « devoir de mémoire », le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre ». Ce sont les élèves de seconde 2 du lycée Étienne Mimard de Saint-Étienne qui ont remporté le premier prix, un voyage scolaire au musée d'histoire du XXe siècle, résistance et déportation à Estivareil. Reportage sur Radio Ondaine avec tout d'abord Florence Boudoussier et Yvette Revelin de la LICRA Saint-Étienne Agglomération qui nous explique ce qu'est le prix Violette Maurice.
Alors, le prix Violette Maurice existe depuis pas mal d'années. C'est la 6e édition cette année. Et en fait, c'est un prix qui est ouvert aux élèves de la primaire jusqu'à la terminale. Et chaque année, on choisit une personnalité qui, dans sa vie, dans ses choix, dans ses actions, donc a développé en fait les valeurs de la LICRA. Et cette année, donc, a été retenue Simone Veil.
Simone Veil, bon, parce que c'est quand même une personne qui a mené des combats très variés. Évidemment, on sait qu'elle est revenue des camps de la mort. Et puis, elle a mené des combats pour les femmes, plein de combats, plein d'engagements, en fait, et qui ont intéressé les élèves. On savait que ce serait un personnage qui intéresserait les élèves.
Comment vous contactez, comment vous mettez en route ça avec les établissements?
Alors en fait, dès le mois de juin, donc cette année, l'année dernière, ça a été le cas. Dès le mois de juin, on avait le sujet. Donc c'était la phrase de Simone Veil. Je n'aime pas le concept de devoir de mémoire.
L'important, c'est la transmission, l'enseignement. Donc elle voulait dire par là que ce qui importait au niveau des jeunes, c'était non pas de se rappeler, mais surtout de transmettre ce qui avait été vécu par les anciens pour pouvoir bâtir un meilleur présent.
Et tout le principe est aussi de faire donc travailler ces élèves, de leur faire faire des recherches, de leur faire imaginer des objets qui appellent à la mémoire et qui rappellent aussi ce passé-là. Combien d'œuvres vous avez reçues?
Alors cette année, 6 classes ont participé. Donc il y avait 2 classes de primaire et 4 classes de lycée. Et en fait, pour répondre à la première question, donc dès le mois de juin, on envoie en fait les sujets, le règlement du concours de façon très très large aux établissements de Saint-Étienne et autour, hein, puisque c'est la section c'est LICRA Saint-Étienne Agglomération, et qui est relayée également par les services du DAZEN. Donc.
Et l'idée aussi, c'est de montrer l'importance que vous mettez sur ce prix Violette Maurice avec la remise des prix et puis la découverte des créations en préfecture de la Loire à Saint-Étienne.
Voilà. Donc, depuis pas tout à fait le début, parce que la première fois, en fait, c'était en plein confinement, donc on n'avait pas pu organiser ça. Mais la remise du prix est réalisée en préfecture. Donc on a eu plusieurs années de suite le préfet lui-même. Cette année, le préfet était arrivé donc deux jours avant. Donc ça a été le directeur de cabinet, Adrien Sperry. Mais ça se fait donc dans la salle des fêtes de la préfecture, avec tout ce que représente un tel lieu pour les élèves.
Alors le prix, c'est un concours avec un premier prix. Et ici, le premier prix, c'est donc les élèves d'une classe de seconde du lycée Étienne Mimard à Saint-Étienne qui visitent ce musée d'Estivareil, une histoire du XXe siècle, déportation et résistance. Il y a eu la prison de Montluc, il y a eu lieu de mémoire Chambon-sur Lignon, etc. C'est important ça aussi de montrer à ces élèves-là ce qui existe autour de chez eux.
Oui, venir à Estivareil, bon, c'est important parce que c'est un lieu qui est proche de Saint-Étienne. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans la Loire au niveau de la résistance. Et je pense que les élèves, bien sûr, d'aujourd'hui ne sont pas au courant de tout ce qui s'est passé. Donc pour nous, c'était important de les amener ici pour qu'ils découvrent ce qu'a été la vie des Français à cette époque-là et surtout tous les actes de résistance qu'il y a eu dans notre région.
Candy, Nadia, Alessandro et Samuel sont en seconde 2 au lycée Étienne Mimard, lauréat du prix Violette Maurice 2026. Ils nous en parlent.
Eh ben, on nous a donné une consigne et après, on devait faire plusieurs projets par rapport à la consigne. Et voilà, du coup, on devait se présenter et tout.
Qui vous a présenté ce prix Violette Maurice? Quel professeur?
C'est notre professeur d'histoire-géographie, Monsieur Moubi. Du coup, il nous a donné la consigne et par rapport à cette consigne, on s'est séparés, on a séparé la classe et on a fait plusieurs objets pour les mettre dans une valise. C'était ça notre idée à la base.
Alors les consignes, on entend ce mot depuis un petit moment, c'était quoi les consignes de ce prix Violette Maurice?
Les consignes, c'était, on avait une citation, celle de Simone Veil, je n'aime pas l'expression devoir de mémoire, le seul devoir c'est d'enseigner et de transmettre. Et la consigne était de trouver un projet sur ce thème pour expliquer cette citation et sensibiliser ceux qui allaient écouter nos projets. Et du coup, d'où l'idée de la valise et du documentaire qu'on a fait pour un peu expliquer le parcours de Simone Veil et ses qualités, ses projets, ses...
Et sa vie. D'ailleurs, Simone Veil, comment vous avez travaillé autour d'elle? Comment vous êtes renseigné sur sa vie?
Eh ben, on est allé chercher des infos un peu partout, que ce soit dans des documentaires ou sur des sites internet, en lisant des biographies aussi. Ouais. Et il y avait aussi le document qui était donné avec la consigne qu'on nous a donnée.
D'accord. Alors, c'est une valise que vous avez présentée. Celle-ci s'ouvrait avec différents documents que vous avez chacun travaillé. Pour toi, par exemple, tu as travaillé sur quoi?
Alors, moi, j'ai travaillé sur une vidéo qui expliquait la vie de Simone Veil dans les camps de concentration et du coup, jusqu'à la fin de sa vie, donc quand elle est morte. Et voilà.
Alors, moi, mon travail, c'était de faire un dessin sur Simone Veil qui enseignait une classe. Donc ça a montré que comment Simone Veil elle est sortie de son camp de concentration. Et dans la classe il y avait plusieurs tableaux pour montrer sa vie, ce qu'elle a fait, les discours, etc.
Moi j'avais également le projet sur le documentaire, la vidéo. Donc on a fait ça sous forme de son. On a enregistré nos voix au préalable. Et ensuite, avec un camarade, on a fait un montage sur Simone Veil, sur type un peu documentaire, un peu vintage, un peu ancien. Et on y a ajouté nos voix dessus pour réaliser cette vidéo qui a été un succès quand même.
Avec mon groupe, on a fait un diaporama qui retrace un peu toute sa vie, un peu décoré, en mettant des images du coup en noir et blanc. Ça retrace sa vie de sa naissance jusqu'à son arrivée au Panthéon.
Okay. Alors Simone Veil, est-ce que vous la connaissiez avant de travailler autour de sa vie?
Oui, je la connaissais de nom par rapport à la loi qui a été votée contre l'avortement. Mais sinon, pas plus en profondeur que ça.
Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris sur sa vie? Des choses qui vous ont marqué?
Comme elle l'a dit, la loi sur l'avortement, c'est un peu elle qui a réussi à mettre cette loi pour que les femmes aient plus de choix. Et ce qui m'a choqué aussi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle a pu sortir de ce camp de concentration et qu'elle a pu surmonter tout cela avec beaucoup d'exploits et surtout les discours aussi, ça m'a beaucoup marqué.
Comment vous avez travaillé ensemble? Alors j'imagine que c'était sur des heures de cours, mais comment vous discutiez entre groupes autour du projet et est-ce que vous évoquiez en fait en fil rouge cette vie de Simone Veil?
Alors entre groupes, on était plutôt séparés, mais au sein du même groupe, on avait des tâches divisées, on cherchait les informations chacun de notre côté, et on avait des heures où on regroupait toutes les informations pour un peu résumer le contexte, la vie de Simone Veil et ses projets, etc. Et de là, on a créé le texte qu'on avait à dire chacun de notre tour.
Alors, vous avez remporté donc ce prix, premier prix du prix Violette Maurice de la LICRA. Vous êtes lauréat. Quel sentiment vous avez par rapport à ça?
C'est en vrai un peu de fierté, parce que quand même, il y avait aussi d'autres classes qui étaient en concurrence avec nous, sûrement avec des projets aussi intéressants que les nôtres. Et ça fait toujours quelque chose d'avoir un diplôme ou un titre comme ça.
Alors comment s'est passé, pour raconter à nos auditeurs, le moment où vous avez su que vous étiez lauréat et vainqueur de ce prix Violette Maurice?
Alors on a annoncé la classe gagnante, c'était nous. C'était à la préfecture de Saint-Étienne. Donc dans une grande salle, très très jolie. Ouais. Et voilà.
Alors le petit sourire, c'est que c'était impressionnant.
Oui, c'était très impressionnant. Quand on a gagné, franchement, on était tellement heureux, et surtout le prof, parce qu'il attendait cette victoire. Et pourtant, il le savait qu'on avait gagné, mais il ne nous l'avait pas dit.
Alors, du coup, qu'est-ce que vous conseillez peut-être à nos jeunes auditeurs qui seraient, tentés de participer à ce prix Violette Maurice? C'est une bonne expérience?
C'est une très bonne expérience. Moi, je conseille de foncer. Et ce serait intéressant de rechercher des informations sur une personne qu'on ne connaissait pas de plus que ça, et de se renseigner sur sa vie, sur ses parcours et sur les aventures qu'elle a vécues. C'est très intéressant et ça cultive, ça sensibilise aussi, ça marque en fait. Et si vous avez l'occasion de participer à un concours, moi je vous conseille d'y aller à fond et de donner tout ce que vous avez. Il n'y aura pas de déçu.
Ces lycéens ont été accompagnés par leur professeur d'histoire-géographie, Mehdi Mouhoubi, qui nous explique ce que représentent pour lui, en tant qu'enseignant, les travaux de ses élèves autour de Simone Veil pour le prix Violette Maurice.
Deux choses. Première chose, effectivement, travailler sur la mémoire, et encore plus celle de Simone Veil, c'était pour moi important, et puis pour les élèves aussi, travailler l'engagement dans le cadre des cours de EMC, travailler certaines valeurs, effectivement, que Simone Veil a défendu et pour lesquelles elle s'est battue. Donc ça, c'est évidemment la première chose, la plus importante. Puis la deuxième chose, c'est pouvoir aussi travailler de façon un petit peu différente de cours classiques. Quand on inscrit des élèves dans un projet, dans un concours qui plus est, on essaye de faire en sorte de travailler différemment. Et l'intérêt aussi de ce concours, c'est qu'effectivement, tout part des élèves. Donc c'est les idées des élèves qui priment. J'impose rien, évidemment. Je parle de leurs idées pour essayer, effectivement, de les aider. Mais voilà, tout part de leurs idées. Donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant.
Alors, est-ce que c'est dans le programme de seconde? Ils l'ont vu au collège. Quand est-ce qu'ils vont revoir cette histoire-là?
Alors, dans le programme d'EMC, effectivement, c'est un programme qui paraît un peu large. Donc tout ce qui est effectivement étude des valeurs, laïcité, etc., ça rentre très bien dans le programme. Très peu effectivement dans le programme d'histoire-géographie, et ça effectivement, ils vont retrouver ces enseignements plutôt en terminale.
Alors, vos élèves nous l'ont dit tout à l'heure, ils ont fait des recherches, ils sont allés chercher des documents, aller sur Internet pour s'interroger, pour comprendre la vie de Simone Veil. Quel regard vous aviez quand ils étaient en train de travailler là-dessus?
Alors, la première étape, ça a été tout simplement de dresser une synthèse, on va dire ça comme ça, de la vie de Simone Veil. Donc, on a regardé plusieurs documents, vidéos et écrits pour essayer de retracer les grands engagements de Simone Veil. Et après, chaque groupe s'est positionné sur, on va dire, un engagement qui n'était pas forcément le même que d'autres groupes. Donc, ça pouvait être son engagement par rapport à la loi sur l'IVG, comme son engagement pour l'Europe, comme son engagement aussi pour la conservation de certaines mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Et donc à partir des groupes, les élèves ont fait émerger des idées à partir du coup de leur choix. Et moi, j'étais plutôt là en tant que spectateur. J'étais aussi là pour les guider sur la faisabilité des travaux, parce que parfois ils étaient un peu trop ambitieux. Donc j'ai recadré surtout ces idées-là, mais après voilà, chaque groupe est parti sur des choses totalement différentes, soit format vidéo, format plutôt écrit, format on va dire artistique pour la valise. Donc moi j'ai laissé faire en tant que spectateur, j'étais simplement là pour rappeler quand même le sujet du concours, pour pas qu'il y ait de hors-sujet, et puis rappeler encore une fois la faisabilité de certains travaux.
Puis la remise des prix, ce prix Violette Maurice, s'est faite aussi, comme d'habitude, dans les salons de la préfecture de la Loire, un lieu important qu'on ne visite pas tous les jours.
Non, qu'on ne visite pas tous les jours. Et effectivement, dès l'entrée d'ailleurs dans la préfecture, on voit ce double escalier assez impressionnant. Donc là déjà, les élèves, le tapis rouge, les escaliers sont assez impressionnés. Et puis effectivement, quand on rentre dans la grande salle de cérémonie, les tableaux... Le lustre, c'est effectivement toujours très impressionnant, et pour les élèves encore plus, parce que autant moi je commence à connaître cette salle, autant les élèves, eux, c'était sans doute la première fois qu'ils y accédaient. Donc,
Alors, premier prix hein, de ce prix Violette Maurice, quel est votre sentiment par rapport à votre classe ?
Ah bah, très content, évidemment très content, parce que bah, c'est quand même un concours, donc on n'est pas sûr de gagner. Donc je suis très heureux parce qu'ils se sont vraiment donnés. J'ai quand même des élèves qui, parfois en cours d'histoire-géographie, ne sont pas les plus motivés, et que là j'ai vu pour le coup très motivés pour gagner le concours. Donc ça m'a fait plaisir de voir certains élèves bah, sous un autre angle. Et de les voir motivés comme ça, bah, ça me fait plaisir de voir que le travail était récompensé.
Il a 23 ans, c'est ça.
Regardez bien, c'est écrit.
À 23 ans,
c'est écrit. 16 ans.
C'est 16 ans. C'est écrit. Lucien,
16 ans.
Ouais. Mais
c'est
quand
qu'il
s'engage à
la
résistance ?
C'est là.
Quand
il s'engage à la résistance ? 16 ans.
Mais il a 16 ans.
Résistant à 16 ans.
Pourquoi ?
Je vois que Lucien Nevirt a 16 ans, et du coup il va s'engager dans la résistance. Il écoute la radio, ils entendent le discours défaitiste du maréchal Pétain. Pour la première fois, Lucien voit sa mère pleurer. Le lendemain, il tombe par hasard sur Radio Londres qui diffuse l'appel de Charles de Gaulle. Très vite, Lucien Nevirt entre en résistance. Avec des amis, il participe au premier groupe clandestin stéphanois, notamment au réseau Espoir créé par Jean Nocher, journaliste fondateur en décembre 1941 du journal éponyme L'Espoir.
Terminons ce reportage avec Sylvia Millet, chargée de développement du musée d'histoire du XXe siècle, résistance et déportation à Estivareil. Elle nous présente ce lieu.
Alors, le musée est un musée de site, le musée d'histoire. C'est un musée de site, il a été fondé par les anciens résistants de l'armée secrète de la Loire en 1984. Donc il était associatif à cette époque. Et puis en 1999, les anciens résistants ont demandé à la municipalité de reprendre le musée. Ils ont fait appel à un conservateur. Il a été entièrement réaménagé. Sa thématique s'est élargie à l'histoire du XXe siècle. Et la présentation également, elle est devenue donc moderne, interactive. Car le souhait des résistants était de transmettre leurs valeurs, de transmettre leur histoire aux jeunes générations. L'exposition permanente s'intitule « Un siècle d'histoire ». On va remonter un petit peu le temps. Le musée d'histoire a été fondé, donc, comme je le disais, par les anciens résistants de l'armée secrète suite au combat de libération du département de la Loire qui sont déroulés dans ce petit village, puisqu'une colonne allemande a été stoppée grâce à l'entente de différents groupes de résistants qui vont se réunir sur le village d'Estivareil pour arrêter cette colonne. Et c'est 40 ans après cet événement qu'ils ont souhaité commémorer cet événement autrement que par les cérémonies commémoratives qu'ils organisaient chaque année et qu'ils ont fondé le musée. On va remonter le temps à travers des éléments scénographiques, donc des mannequins qui représentent quatre générations, avec donc la mode vestimentaire qui est évoquée. Et puis également, il y a des pédales, puisque nous avons un élément interactif. Chaque fois qu'on voit cet élément dans le musée, c'est aux visiteurs d'intervenir et il se produit généralement quelque chose. Ici, vous appuyez sur les pédales et quand vous appuyez dessus, il y a un élément sonore qui est associé aux vêtements. Donc, il vous permet de remonter de temps jusqu'en 1900. Et puis là, vous allez partir sur un parcours chronologique où vous allez rencontrer différentes thématiques suivant le tronçon chronologique. Donc, vous allez voir la Loire industrielle. Vous allez rencontrer une vitrine qui va vous parler de l'école républicaine avec à l'intérieur un cartable en bois qui servait de luge aux enfants quand ils allaient à l'école. Je ne sais pas dans quel état arrivaient les cahiers, mais voilà. L'expansion coloniale, vous avez une scénette qui vous évoque l'exode de la population rurale en ville. Vous avez bien évidemment la Grande Guerre, 14-18, avec une tranchée reconstituée. Donc on vous invite à grimper aux échelles pour regarder dans la tranchée. Vous avez des plots qui vous présentent différents documents. Vous avez une affiche qui vous présente une attaque de poilus au tout début de la guerre et qui présente en fait la propagande. Vous avez également l'arrière qui est évoqué avec un buffet. Dans le buffet, vous pouvez ouvrir les tiroirs et découvrir des objets de la famille qui habite ici, et plus particulièrement de la veuve, puisque vous avez un portrait de poilu qui est encadré et qui porte un voile de crêpe sur un des côtés du cadre avec ses deux médailles. Et malheureusement, le poilu est décédé. Et vous avez un voile de crêpe, vous avez la plaque de matricule du soldat, des gants noirs, un mouchoir de deuil qui sont présentés dans la vitrine. Vous avez bien évidemment la mémoire de la Grande Guerre qui est évoquée. Et puis, quand on poursuit l'aventure du XXe siècle, on passe par l'invention des loisirs, l'ouvrier à la chaîne, le monde qui se rapetissait, puis on arrive sur... on va dire la moitié du musée qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, vous allez vous retrouver plongé dans un univers sombre, avec tout d'abord l'exode de la population en 40. Vous avez également évoqué les files d'attente devant les magasins à travers des silhouettes, et vous allez vous retrouver dans la position des personnes qui attendaient devant les magasins. On retrouve un tube des objets de la vie quotidienne sous l'occupation, avec des tickets de rationnement, avec des chaussures à semelles de bois, des fameuses galoches, un livre « Comment se nourrir en période de restriction », les journaux « Lisette » qui étaient destinés aux petites filles, mais on n'a pas oublié les hommes, hein, bien évidemment. Vous avez « Cœur vaillant » à l'autre côté. Puis vous rentrez vraiment au cœur de la Seconde Guerre avec l'appel du 18 juin, avec une filière d'évasion qui vous est évoquée, qui est Madame Mougeau, qui présente une filière d'évasion de prisonniers de guerre, où on trouve dans cette vitrine donc des objets qu'elle a utilisés pour transmettre des faux papiers aux prisonniers de guerre. Donc ils étaient dissimulés dans des colis de la Croix-Rouge, et elle dissimulait ces papiers dans des raquettes de ping-pong qu'elle avait truquées, des brosses à vêtements. Voilà, vous avez évoqué les renseignements, les parachutages, les sabotages, les groupes, bien évidemment, de résistants de la Loire, dont la S, l'armée secrète qui a fondé le musée, comme on le disait tout à l'heure. Vous avez bien évidemment évoqué une salle qu'on appelle le mur de la mémoire, qui est dédiée à la déportation. Donc ici, on retrouve des textes qui ont été inscrits en 1999, lors de l'ouverture du musée, puisqu'il y a un travail qui a été fait avec les élèves du collège Émile Falabreg de Saint-Bonnet-le-Château, donc le village juste en dessous d'Estivareil, et puis des déportés du département de la Loire, dont Violette Maurice, déportée résistante stéphanoise, Madame Silberberg, Monsieur Maurice Falissoire. Donc ils ont rencontré les élèves, ils ont discuté de ce qu'ils avaient vécu, de ce que les élèves en pensaient, de ce qui s'était passé. Ils ont choisi des textes, des mots, et ils sont venus les inscrire de leurs propres mains, tous, déportés et élèves, sur ce mur. D'accord. Donc c'est très émouvant de lire ces messages. Et parmi ces textes, vous avez la définition du crime contre l'humanité qui a été installée. Quand on sort de l'espace 39-45, on va bien évidemment passer par l'espace sur les combats d'Estivareil, où là, vous avez une description des combats qui va suivre l'avancée de la colonne. Donc, on part du Puy-en-Velay, d'où est partie la colonne, jusqu'à Estivareil, où elle est arrêtée par le commandant Marais. On retrouve sa silhouette, et puis derrière, vous avez des images d'archives. Vous avez également une vitrine qui vous présente ces objets qui ont été déposés à Estivareil, puisque les Allemands ont bien évidemment déposé les armes à Estivareil, ils se sont rendus. Et puis on sort de la guerre, donc on est dans la période 45-73, et là on va découvrir la décolonisation, la société de consommation, et aujourd'hui l'histoire de demain. Et puis on termine donc par cet espace, aujourd'hui l'histoire de demain, qui présente des coupures de presse, qui présente une sculpture d'Olivier Hoth, intitulée « La Puerta del Sol », et qui permet de parler d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on se rencontre à la suite de ce prix Violette Maurice de la Licra, où les lauréats de ce prix, ce sont des élèves de seconde du lycée Étienne Humard qui viennent ici. À qui s'adresse ce musée ? Est-ce que c'est un public scolaire ? Est-ce que c'est un tout public ? Comment, en fait, la scénographie est-elle adaptée à ces différents publics ?
Alors, le musée s'adresse à tout le monde, bien évidemment, petit et grand, en famille. La scénographie est adaptée avec ces éléments interactifs qui ont été mis en place en 99. Il y a une scénographie moderne, interactive, qui a été mise en place. C'était un choix des concepteurs et qui fonctionne très bien, encore aujourd'hui. Il y a des scénettes adaptées pour les enfants, avec des thématiques qui sont mises en avant. Le musée développe une série d'activités famille, donc on propose des escape games, des ateliers pour les enfants, atelier fabrique ta médaille, de 7 à 13 ans. L'escape game, c'est à partir de 11 ans et c'est en famille jusqu'à 99 ans et plus. Voilà, on a un cycle de conférences, on a différentes animations qui sont proposées tout au long de l'année.
Alors justement, ce cycle de conférences, les animations proposées tout au long de l'année, et peut-être le plus utile, les infos pratiques pour les horaires d'ouverture, où est-ce qu'on retrouve tout ça ?
Alors, vous pouvez retrouver les horaires d'ouverture sur les pages Facebook du musée. Vous pouvez nous suivre, on sera ravis. Et donc, on est ouvert tous les jours de 14h à 18h. Et on est fermé en basse saison les samedis et lundis du 12 novembre au 31 mars.
Ce musée, 1999, quel est son avenir ? À quoi, comment on réfléchit la suite aujourd'hui en 2026 ?
Alors, il y a un espace à la fin du musée qui parle, parce que le musée d'histoire du XXe siècle est en fait un musée d'actualité, puisque ce qui s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça résonne encore aujourd'hui. Hein, et puis, il suffit d'allumer la télé pour avoir les résonances actuelles. Et il résonne aussi par ces panneaux qu'on rajoute, ces sculptures qu'on peut rajouter au fur et à mesure. Je vous invite à venir découvrir le musée. Et dès le hall d'entrée, vous êtes accueilli par une grande figure ligérienne, résistante et homme politique, qui est Lucia Neuwirth, qui est décédée en 2013 et qui a fait don au musée de différents documents aux anciens résistants de la Hesse. Ça a été installé dans le hall d'accueil, ce qui vous permet d'être accueilli par lui, et vous allez pouvoir découvrir son parcours atypique, puisqu'il était résistant à 15 ans. Et puis vous allez découvrir tout son parcours. Vous avez également un parcours street art, alors là qui se passe dans le village, puisqu'on a C215, le street artiste parisien, qui est venu travailler il y a quelques années au musée, et vous pouvez retrouver 4 de ses œuvres cachées dans le village. Vous avez le plan au musée qu'on vous distribue gratuitement, et vous pouvez partir à la recherche de ces graphes. Vous avez des petits QR codes qui vous permettent de trouver les biographies de ces portraits de résistants, et entre autres, je vais en dévoiler une, qui est Violette Maurice.
Acknowledged. Acknowledged.